Matthieu au chapitre 10, et on va lire à partir du verset 24. Et on commence à considérer ensemble, vous savez, on a vu dans les trois derniers messages de notre série de Matthieu, on a vu la mission apostolique et Jésus lui-même continue dans le même discours. En parlant, il ne se concentre pas tant sur la mission que sur le caractère apostolique. Donc, toujours, il parle aux apôtres. Vous savez, c'est chapitre 10, là, c'est les apôtres qui sont nommés, les premiers versets, la mission qui leur est donnée. Puis là, on est rendu à la section qui parle du caractère qui doit les animer, qui doit les... Ça se dit pas, le caractère qui les caractérise, là, mais... En tout cas, là, je viens de le dire, ça se dit pas... Tant pis, je viens de dire une impossibilité linguistique. Le caractère qui les caractérise, je pense pas qu'on peut bien dire ça, mais c'est pas grave. Donc, vous êtes là, tout le monde? Matthieu 10, 24. OK. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Avez-vous remarqué une expression qui est revenue à trois reprises dans ce qu'on a lu? Que je vous demande beaucoup, j'aurais peut-être vous dire, Dieu vous a retiré avant, c'est quoi?
Ne craignez pas.
Ne craignez pas. OK? Ça va être l'élément rassembleur des trois points qu'on va regarder ce soir, parce que la mission apostolique, c'était jusqu'au verset 23. Là, jusqu'à la fin du chapitre, OK? Là, on a lu seulement verset 24 à 31, c'est ce qu'on considère ce soir. Mais pour la question du caractère apostolique, on va y vouer... d'autres messages, parce que ça va jusqu'au chapitre 42. Verset 42. Ah, je savais pas qu'il y avait 42 chapitres dans Matthieu, hein? Oui, il a écrit beaucoup. Et donc, ici, c'est Jésus lui-même qui définit ce qu'est le caractère de ses envoyés. OK? Vraiment, c'est là-dessus qu'il se concentre. Évidemment, on comprend là, qu'il y a un sens restreint dans lequel c'est vrai. Là, il s'adressait vraiment aux 12 puis tout ça. Mais on comprend aussi que, OK, bon, donc quand je parlais, vous rappelez-vous, la compagnie apostolique, là, tu sais, donc les 12 apôtres, il y a un sens qui est restreint, mais aussi c'est valide pour nous dans le sens plus large, où est-ce que nous sommes les envoyés du Seigneur, nous sommes envoyés dans sa mission. Si la mission des apôtres était de prêcher le royaume de Dieu, la nôtre aussi est ça. Si leur caractère se résume par le caractère de Christ, évidemment, nous, c'est pareil, OK? Parce que Christ, c'est ça qui définit ici. On voit dès le début ici, il compare au maître, puis donc, ça s'applique pour nous autres. Et donc, ces envoyés, c'est le sens du mot apôtre, ces envoyés du Seigneur dans le monde avaient une mission, on l'a considéré, prêcher le royaume de Dieu, dans un royaume ennemi, dans le royaume de Satan. Et nous avons, nous aussi, un message, une mission dans un monde de ténèbres, un message de lumière. Et voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir le caractère apostolique et être défini. À cause de la mission qu'on a, on doit avoir le caractère qui va avec. OK? Parce qu'on ne fait pas juste faire des choses. Ce qu'on fait est le fruit de ce que nous sommes. À cause qu'on a le caractère apostolique, de cette façon-là, on va aller dans la mission à la façon que notre maître nous demande de l'être. Donc, c'est bien, bien important ce qu'on considère ce soir. Et un peu, on peut dire, avec ce qu'on a lu ce soir, bon, on va parler de la crainte, je l'ai dit, mais aussi on peut voir un peu comme dans Éphésiens, quand ça dit que On est des enfants de lumière dans les ténèbres et on est appelé à ne prendre aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt à les condamner. Il y a cette idée-là aussi qui transparaît dans les versets qu'on a lus et dans l'ensemble du caractère apostolique. Maintenant, dans la situation qui nous concerne, 2000 ans plus tard, je veux dire, il y a bien des choses qui ont changé culturellement au niveau des habitudes. Bon, j'ai pas vu quelqu'un se promener en torche dernièrement, puis avec un cheval. Puis tout. Ben non, dans le rang, on en voit. Mais bon, c'est peut-être pas comme dans le temps de la Bible. Mais il y a beaucoup de choses qui sont encore les mêmes. La parole de Dieu est vivante et toujours est actuelle. Et ce qu'on considère, qu'on commence à considérer ensemble, c'est encore la façon par laquelle Dieu veut accomplir sa mission, avec des gens qui sont caractérisés par ce qu'on va voir là. Dans son plan rédempteur, il utilise un type de personne, des gens qui ont ce type de caractère-là. Et pour nous, c'est bon de prendre le temps de décortiquer ça ensemble. Puis je pense que c'est Dieu, dans sa souveraineté, qui fait qu'on est rendu là dans un temps comme le nôtre. On a vu la mission apostolique. Je croyais pour la même raison aussi que c'était important qu'on prenne le temps de s'arrêter, parce que notre mission, plus que jamais, on voit comment elle est importante, n'est-ce pas, hein, avec ce monde perdu qui a tellement besoin d'entendre la bonne nouvelle. Mais aussi, je veux qu'on prenne le temps de décortiquer ce passage-là ensemble à travers... En tout cas, plus qu'un message, parce qu'on ne va pas voir tout. Je ne sais pas préparer pour la fin du passage, peut-être un ou deux messages. Où est-ce que on voit le caractère apostolique de ceux comme ça qui accomplissent la mission de Dieu? Maintenant, je vais amener un point important par rapport en introduction. Il faut se rappeler comment... Ce dont nous avons le plus besoin en ce moment. On a parlé ce matin des besoins, hein, comment le monde dit qu'il y a des choses, qu'il y a des problèmes, puis qu'il y a la solution qui va avec. Puis comment nous, en tant que chrétiens, on voit, non, le problème, c'est pas ce que le monde dit. Le problème, c'est le péché. Puis la solution, c'est Jésus-Christ. Le monde est complètement... Vous savez, il y a une disparité. Mais de la même manière, nous autres, en tant que chrétiens, il faut qu'on voit c'est quoi notre plus grand besoin. C'est quoi qui est le plus important. Et j'aimerais vous avancer. Et on voit ça à travers le texte qu'on considère à soir. Et pour les semaines prochaines, que ce qu'on a le plus besoin, c'est une fraîche vision biblique, puissante, sur mesure de notre Dieu. On a besoin de voir Dieu tel qu'il est. C'est ça qu'on a besoin de plus. En tant que chrétien, là, si on est saisi par qui notre Dieu est réellement, c'est pour ça que Dieu, la Bible, là, c'est pas un livre d'histoire, malgré qu'il y a plein d'histoires. C'est pas un livre de doctrine, malgré que c'est la révélation de Dieu. Dieu se révèle à travers des histoires, se révèle à travers des doctrines, mais c'est d'abord et avant tout la révélation de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole pour se révéler à nous, pour que vraiment on puisse avoir la compréhension, la conviction de qui Dieu est réellement. Et pourquoi je dis que c'est si important? Dans des circonstances comme on entend des menaces, on entend toutes sortes de choses. Parce que c'est ce qui va placer la bonne vision de Dieu, puis je prends le terme vision dans le sens de la bonne compréhension de Dieu, et ce qui va nous aider à replacer toutes ces choses-là dans leur bonne perspective. Puis là-dessus, je vous donne l'exemple de ce que j'ai entendu il y a une couple de semaines. M. MacArthur avait amené un message dans Matthieu 6, tu sais, là, les inquiétudes, là, ne vous inquiétez pas, puis bon, il passait à travers le passage pour le message qu'il avait amené. Donc, c'est un message, on peut dire, sur les inquiétudes. Puis après, le message, c'est un message du dimanche soir, puis ça, souvent, je pense, des fois, c'est préenregistré, c'est des vieux messages, je ne sais pas trop. Hein. Puis là, il y avait une petite entrevue, peut-être 5 minutes, avec quelqu'un de son église sur le message. OK? Donc, tu sais, M. MacArthur, il pose des questions sur les inquiétudes. Puis là-dedans, M. MacArthur a dit quelque chose que j'ai vraiment trouvé bien et vrai par rapport à ce que je vous dis là. Il dit notre propension. Et là, c'est pas. Si vous allez voir l'extrait, là, peut-être que ça sera pas mot pour mot. Là. De toute façon, lui parlait en anglais, moi je vous le dis en français. Mais voici l'essence de ce qu'il a dit. Notre propension à grandir dans l'inquiétude ou. Plus s'inquiéter ou moins s'inquiéter, okay? Notre propension à ça est déterminée par notre vision, notre vue que nous avons de Dieu. et déterminé par ça. Si notre Dieu n'est pas plus grand que les circonstances et les problèmes, alors ce n'est pas le Dieu de la Bible. Mais c'est un idole, c'est le figment de notre imagination auquel nous sommes esclaves par la peur au lieu de connaître Dieu par la foi. Pour ça, je dis que c'est notre plus grand besoin. Par la foi, on reconnaît que Dieu est Dieu, qu'il n'y a rien de ce qui arrive qui surprend Dieu, qui est au-dessus de lui, qui est plus grand que lui. Rien. Ça, c'est notre sécurité. Ça, c'est notre stabilité. C'est notre ancre de l'âme qui va jusqu'à la présence de Dieu. C'est notre assurance. On n'est pas ébranlé par ça. C'est pour ça que même Paul, quand il dit en anglais, « None of these things move me. » En français, il dit... qu'est-ce qu'il dit en français? Parce qu'en anglais, ça amène le point que je veux dire, mais... Attends. Acte 20, 24. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était presque... Il n'en faisait pas un cas de tout ce qui est arrivé. Ou il n'était pas là, dérangé outre mesure. Pourquoi? Parce que sa vision de Dieu était plus grande. Il voyait Dieu. Puis là, lui, c'était un homme là, qui était persécuté partout où il allait. Justement, M. MacArthur, il dit, lui, il ne regardait pas l'hôtel de la ville où il allait, il regardait la prison. Parce que c'est là souvent qu'il finissait. T'sais. Avez-vous des bonnes prisons dans cette ville-ci? Donc, notre vision de Dieu. Quand Dieu est grand comme il est, okay? Quand vraiment Dieu est grand comme il est, et qui doit l'être aussi à nos yeux, là, à nos, Dieu l'est toujours, mais la question c'est à nos yeux, pas se retrouver comme des Israélites, « Ah, nous sommes comme des sauterelles », ça veut dire que leur Dieu n'était pas bien gros. Okay? Donc, quand Dieu est grand à nos yeux, comme il doit l'être, les hommes et le monde sont petits comme ils le sont en réalité. Vous savez, c'est juste reconnaître la réalité. Dieu est grand et infini et au-dessus de tout, c'est la réalité, c'est un fait. Puis les hommes sont petits et insignifiants, c'est la réalité, c'est un fait. Mais voici un combat avec lequel nous luttons tous, on a tendance à inverser. On voit les hommes grands, puis des problèmes grands, puis on voit Dieu petit. C'est pour ça que j'ai trouvé ça bien, c'est-à-dire notre propension à nous inquiéter, à avoir peur, est déterminée par notre vue, notre vision de Dieu. C'est là le secret de notre victoire, de notre conquête de Canaan, de la terre promise, de toutes les promesses de Dieu. Hein? Comme Caleb et Josué. Eux autres, ils n'ont pas dit « on est des sauterelles ». Non, non, non. Leur Dieu était assez grand pour leur donner le pays avec des géants, des enfants d'Anak. Voyez-vous, il y avait la vision de Dieu telle qu'il était. Ils se sont rappelés de Dieu. Ah, et pour nous, c'est pas le temps de se ranger du bord de la majorité si la majorité n'a pas raison. C'est pas le temps d'abandonner, mais c'est le temps de se tenir, de parler de l'Éternel, parce que notre confiance est en lui, parce qu'il ne change pas. Puis qu'on ne connaît pas d'autre secours, on ne connaît pas d'autre sécurité que lui. Et mes amis, je pense que c'est bien pertinent. Pourquoi j'ai pris le temps de tout vous dire ça? Parce que Jésus, à plusieurs reprises, il leur dit, en fait, à trois reprises dans le texte, il a dit « craignez pas », verset 26, verset 28, verset 31. Et donc, c'est les premières qualités, on va voir trois qualités, trois traits de caractère, du caractère apostolique ce soir. Les trois premières, et ont tout rapport avec ce qui va nous calmer, ce qui va nous amener à ne pas craindre. Et ça a le rapport avec la juste vision qu'on doit avoir de Dieu. OK, donc vous êtes prêts, on embarque, on va commencer avec les versets 24 à 26, la bonne vision spirituelle. Regardez verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison, ça c'est Jésus, Belzébul, et Jésus a été accusé d'être Belzébul, il dit il fait ses choses par le doigt de Dieu. À combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ça c'est nous. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. « Ne les craignez donc point, » notre fameuse expression, « car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. » Ce que Jésus ici nous communique, c'est que l'important pour faire face avec courage, avec conviction, avec foi à nos peurs, aux choses qui nous menacent, c'est de savoir et de croire que Dieu est Dieu, Jésus-Christ est bien celui qui dit l'être, et ça, c'est là notre sécurité. C'est ça qu'on a besoin. Il nous communique ici, il dit, comprenez les choses telles qu'elles sont. Le maître, la relation qu'on a, lui est au-dessus, nous on est en dessous, puis on n'a rien à s'inquiéter, il n'y a rien de caché qui va... Faites-vous-en pas. La bonne vision spirituelle, si vous me voyez tel que je suis, vous voyez tel que vous êtes, puis que vous voyez justement que en ce moment, vous voyez peut-être des choses, mais faites-vous-en pas. Ce qui est caché va être révélé. Si vous gardez cette bonne vision spirituelle, tout va bien aller. Ici, Jésus, je vous explique un peu plus ma pensée ici, ce que je veux vous communiquer ici avec les versets qu'on a lus. Ce que Jésus fait ici dans ces versets-là, il trace un lien direct entre comment lui a été traité, okay? Il a été traité comme un malfaiteur, il a été appelé Belzébul, et comment nous serons traités à cause de notre appartenance à lui. Hein? Parce que c'est vraiment, ici en passant, quand ça dit serviteur, c'est quel mot? Esclave. OK? Et donc, on appartient, OK? S'il est notre maître, on lui appartient. S'il a été traité de même, pensez-vous qu'on va être traité différemment? Oui, il y a un lien direct qui est fait entre les deux, OK? Bon, donc là, il dit ça. Il fait le parallèle entre les deux. Il nous dit ça afin que on ne craigne pas. Voyez-vous, comprenez-vous le lien? Comment que ça m'enlèverait la crainte, le fait qu'ils ont traité Jésus de même, puis ils vont me traiter pareil? Mais ça, moi, ça me ferait plus peur, n'est-ce pas? Ouais, merci pour les mots de réconfort, crains pas, ils t'ont traité. OK, mais voyez, je vais vous expliquer. C'est quoi ici qui est en train de dire? De même que lui a été maltraité, il a été traité injustement, OK, en toute chose, en tant que notre maître, ils n'ont pas réussi à le vaincre. Il a triomphé. Ah, c'était caché, c'était pas évident, là. Je veux dire, il avait l'air d'un méchant loser aux yeux du monde. Mais ils l'ont traité de même, puis il a vaincu, il a triomphé. Bien, la même logique s'applique à nous autres. On peut être maltraité, on a l'air des losers, mais au bout du compte, ce qui est caché va être démontré. On a l'air des losers, mais savez-vous quoi, au bout du compte, de la même façon qu'on est traité par le maître, puis que lui est allé au triomphe, la même chose pour nous autres. Voyez-vous la logique? Il a été traité comme rien, puis il a été le grand vainqueur. Qu'on ne soit pas traité, qu'on soit pas surpris qu'on soit traité comme rien, mais aussi, savez-vous, on sait que, de toute façon qu'on va être aussi en vainqueur. C'est ça ici, craignez-les pas. OK, c'est caché, c'est pas évident. Puis Jésus, quand il parlait, c'était pas mal caché qu'il était le roi d'Israël, puis qu'il était le Messie triomphant, puis, OK? C'était très caché, en fait. C'est ce que tout le monde, ça a été la pierre sur laquelle Israël est tombé. C'était caché, mais il dit, faites-vous-en pas, ça va paraître pas. C'est quoi? Nous, on attend, là, ça va paraître très bientôt. Là, les nations se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Rhum. On sait que Jésus va revenir, puis c'est réglé, là, on la connaît, la fin. Là. C'est caché, mais il n'y a rien de caché qui ne va pas être dans la lumière. C'est pour ça qu'on ne devrait pas craindre. Voyez-vous, ça, c'est la bonne vision spirituelle. Ce qui frappe à l'œil en ce moment, c'est pas ça qui est la réalité. C'est pas ça qui doit occuper notre attention. C'est pour ça qu'on craint. Le voyez-vous maintenant? On n'a pas à craindre. On connaît la fin de l'histoire. Puis, ah oui, il a été maltraité, puis ça a été mal, puis ça, puis ça va mal pour nous. Mais on n'a pas à craindre parce que ça nous montre que c'est exactement comme ça devrait être. C'est des paroles de réconfort. Comme je dis, il faut prendre le temps de s'arrêter pour voir. Là. Ah, ils m'ont maltraité, faites-vous-en pas. Non, mais la clé est dans l'idée de il n'y a rien de caché qui ne va pas être découvert. Je veux dire, ça paraît pas. Le royaume de Dieu n'est pas venu hein, comme frappant l'œil. Maintenant, ça veut dire que maintenant, les apparences sont trompeuses. Les vainqueurs ont l'air d'être des perdants, puis les perdants ont l'air d'être des vainqueurs. Mais la fin va révéler la réalité des choses. Puis déjà, même Dieu révèle pas mal d'affaires en ce moment. Mais c'est pas fini, ça va être encore plus. OK? Maintenant, avoir la bonne vision spirituelle, c'est de garder les yeux sur cette réalité de ce qui frappe pas l'œil, sur les choses invisibles qui sont éternelles et non pas sur les passagères, les visibles qui sont passagères, sur les apparences trompeuses. Parce que oui, aux yeux du monde, Jésus-Christ a été perçu comme vaincu, faible, méprisable. Mais évidemment, on sait et on croit qu'il n'en est absolument rien. De même, en est-il de nous? La Bible dit de nos héros de la foi qu'on admire sont vus comme des balayures du monde. Paul dit ça de lui, puis on dit qu'il était vu comme n'étant pas digne, il vivait dans les déserts errants. C'est nos héros, ça, mes amis. Mais pourquoi que sont nos héros? Parce que c'est des héros de la foi. Donc, on n'admire pas ce que le monde admire. Une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je pense pas que c'est bon d'admirer les vedettes de sport du temps moderne. C'est tellement des personnes vaines. Ils n'ont rien à admirer, ils n'ont pas de caractère, ils ont du talent pour tirer une balle dans un trou, dans un filet. Puis on vouait leur vie à ça, mais leur vie, c'est une vanité. Puis maintenant, encore, c'est encore pire, là, le sport est rendu politique, c'est rendu qu'ils poussent des idées complètement plus que malsaines, dangereuses, de communisme puis de tout ça. Fait, non, moi, c'est là que j'admire. Même si le monde ne les admire pas, c'est pas grave. Parce que c'est ça la bonne vision spirituelle. On ne voit pas les choses comme le monde le voit. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi Satan, une de ses tactiques, on a parlé ce matin de ses stratégies, mais le monde et le diable ont une tactique favorite. C'est de faire peur. Hein? La Bible nous dit que Satan est un lion rugissant. J'ai déjà été au zoo, puis peut-être qu'il était toi, mais j'ai pas encore, mais j'imagine qu'elle doit être épeurante. T'es à côté d'un lion quand il n'y a pas de barre entre toi puis le lion, là, puis qu'il rugit, là. Fait, ça doit être épeurant. Parce que c'est un animal qui est capable de nous faire du mal, puis il nous le signifie quand il grogne, dit « jetez à l'œil, puis fais attention », OK? Donc, ça fait peur. Mais, ce que je veux amener, c'est que on parle de vision spirituelle. Savez-vous que la majorité, quand on a peur, bon, c'est parce qu'on n'a pas la bonne vision de Dieu, puis on est pris par des choses qui nous distraient de qui Dieu est, du fait qu'il est au contrôle, tu sais. Comme Daniel dans la fosse au lion, je veux dire, il y avait la paix en son Dieu, puis Dieu l'a protégé. Mais quand, voici, il y a un danger, quand on est face à la peur, ça peut déclencher un monde imaginaire. Des « oui, mais si », puis là, puis peut-être ci, puis peut-être ça. Le monde de la peur, c'est un monde imaginaire, la 80, là, je ne vais pas faire des statistiques, là. Mais la majorité du temps, c'est des affaires qui ne vont pas arriver, puis comprenez-vous, on a peur de ce qui peut arriver, puis finalement, ça n'arrive jamais. Mais oui, mais peut-être que si, puis peut-être que ça, puis là, on a toutes sortes de choses qu'on s'imagine qui, la majorité du temps, n'arrivent pas, qui ne sont pas, même pas en accord avec la réalité. Ah, il y a des choses que, tu sais, ah, on entend parler, là. Vous avez entendu dernièrement, il y a un député, je me rends compte que les gens doivent en parler, puis je reçois des emails là-dessus, j'ai vu ça, là, peut-être une semaine ou deux, puis là, je reçois des emails. Ah, Randy Hillier qui a posé des questions au Parlement de l'Ontario, puis c'est pas de la conspiration, et je lui ai demandé, monsieur, comment ça qu'il y a des facilities. Oui, on a bien de la misère, à tout le fois, je pense à ce mot-là, je me rappelle plus c'est quoi. Il y a des bâtiments sanitaire pour les quarantaines. Ça sert à quoi, ce prix? Comment c'est pas écrit? Puis là, tu te rends compte, le gars répond pas, puis c'est plus inquiétant la réponse que le gars donne que la question. Le gars demande la question, il dit, en donne dans toutes les provinces, tous les territoires, c'est quoi vous allez faire avec ça? Réponse de politicien. Oh, ça peut faire peur. Vous savez quoi, quand même, qu'il faudrait qu'on finisse dans un endroit de même. Il n'y a rien de ça qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a rien de ça qui va échapper à la souveraineté de Dieu. Il n'y a rien de tout ça que Dieu ne peut pas se servir pour sa plus grande gloire. Le livre que je t'ai entraîné, vous allez me trouver tannant. Il dit, ah, quand il lit un livre, c'était comme si on lisait toutes, nous autres ensemble. Mais c'est ça, quand on prêche, ça sort dans nos affaires. Mais cette petite madame-là, il y a eu des gens, juste le fait qu'il était dans sa cellule, des gens, des fois, là, mes amis, une, je pense qu'elle était possédée démoniaque, la façon qu'on voyait ça, là, elle appelait la maniaque, là, OK. D'autres, là, pauvre, là, la fille, la peau toute brune, sec, puis tu sais, puis toute maigrichonne, puis les gens qui arrivaient maganés, puis tout ça. Puis la fille, par l'amour de Christ qu'elle a, simplement, puis en priant, elle a gagné beaucoup de gens au Seigneur de même. Évidemment, c'est au-delà des paroles, souvent, elle a des paroles parlées, mais c'est incroyable, puis tu sais, on dit l'amour de Christ est sacrificiel. Faire des sacrifices, des fois, déjà, il y avait de la misère. C'était déjà là, leur plus grande souffrance, vous, c'était quoi? Bon, ils étaient battus des fois, mais c'était la faim. Ils mangeaient des petites portions, puis pas beaucoup. Puis même amené dans une première prison, ils mettaient du sable dans la bouffe, comme pour. C'était une espèce de ragoût, là, puis ils mettaient du sable pour que ce soit plus bourrant, mais. Il fallait qu'on l'avale direct. Tu peux pas mordre du sable, là. Ça fait mal aux dents. Là. Dans l'autre, en tout cas. Puis... Mais tu sais, pour dire que des fois, tu sais, quand ton menu est si petit puis vital, c'est arrivé des fois qu'elle sautait son. Elle a jeûné puis elle donnait à la personne. Elle a fait ça souvent. Elle a gagné du monde de même au Seigneur. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que. Mes amis. Peu importe ce que Dieu nous envoie, Dieu va nous utiliser là. C'est ça qu'il faut que ça soit. Si Dieu est souverain, si Dieu est vraiment au trône, là, puis qu'il veut qu'on finisse notre vie dans un camp sanitaire au Canada, puis même si c'est au Nunavut, ben ainsi soit-il, puis que Dieu nous utilise pour sa gloire de la façon que lui, il veut. Qu'on arrête donc d'avoir peur. Puis on peut être éloigné des gens qu'on aime. On va les retrouver au ciel s'ils sont chrétiens, puis sinon, ça va être notre raison encore plus de leur démontrer l'amour de Christ. La bonne vision spirituelle. C'est pour ça que Satan veut tellement, il veut rugir, il veut faire peur, parce que quand on a peur, on oublie que l'amour de Christ nous garde, que rien ne peut nous servir, nous séparer de son amour. Donc, c'est vraiment une de ses plus... Moi, c'est pas sa plus grande arme. La peur, peut-être, puis la colère. On parlait de ça ce matin aussi. C'est deux armes pas mal que Satan aime utiliser. Mais lorsqu'on se repose dans la souveraineté de Dieu, dans sa bonté, dans sa suffisance, ces choses-là ne nous touchent pas, ne nous affectent pas. Tu sais, ça dit dans 1 Jean 5,18 que le malin ne le touche pas. Vous savez que ce n'est pas absolu dans le sens que si on est un enfant de Dieu, le malin ne va rien nous faire. Ça veut dire qu'il ne nous touche pas en dehors de ce que Dieu permet. Comme avec Job, c'est un enfant de Dieu. Ah, il a permis que Satan le touche, mais pas plus que ce que Dieu voulait. Il dit, tu y laisses sa vie. Puis Dieu avait un grand plan avec ça, puis il a fait exactement ce qu'il voulait avec Job. Mais c'est dans ce sens-là. Satan ne peut pas nous toucher tant que Dieu ne l'a pas permis. Fait que si on voit que ça va mal, c'est Dieu que même si Satan vient, puis il nous donne bien de la misère, puis c'est bien difficile, c'est Dieu qui laisse nous toucher. Puis c'est Dieu qui a un plan. Puis, savez-vous, c'est cette vision-là qu'on a besoin d'un Dieu tellement grand, tellement au contrôle, que c'est comme ça qu'on voit nos vies. Même si on a cette vision-là, pourquoi qu'on craindrait? Deuxième trait de caractère, la vaillance spirituelle. Non seulement la vision spirituelle, mais la vaillance spirituelle. Prends une petite shot d'eau avant de lire. Hein. Verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ici, la victoire sur la peur, là, l'idée de ne craignez pas, comme on a vu au verset 28, réside dans la vaillance spirituelle. Et c'est quoi je veux dire par vaillance spirituelle? Comme Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Vous connaissez, hein? Matthieu, on va voir ça plus tard. Dans, je ne sais pas combien de temps, ça va être dans longtemps. C'est dans Matthieu 26. C'est ça le secret pour que nos cœurs ne soient pas saisis par la peur, mais plutôt lorsqu'on veille à se nourrir des paroles, se nourrir du pain de vie, se nourrir des paroles de Dieu qui vont nous donner une foi ferme. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Lorsqu'on veille comme ça, puis dans un esprit de prière, comme Épaphras qui combattait dans la prière. Donc, lorsque, avec la parole et la prière, on est dans un état de vigilance spirituelle, on est protégé. De nous-mêmes, de nos propres peurs. Maintenant, ce que Jésus dit ici, au verset 27, lorsqu'il dit « Ce que je vous ai dit en ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » c'est que... Alors, on va reculer au verset 26. « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. » C'est-à-dire, vu que il n'y a rien qui va rester caché, que la vérité va finir par ressortir, on ne devrait pas être timide par rapport à la vérité. On devrait la proclamer, la prêcher sans honte. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est ça qui va triompher, c'est ça qui va sortir au bout. Fait que, pourquoi avoir peur de quelque chose qui va, au bout du compte, être triomphé? Parce que pensez à ça, là. On a peur de dire la vérité. Un bel exemple, on a peur, quand on parle à quelqu'un, de dire qu'il y a un enfer qui est réel et ce qui les attend. Pas pour vous, là, mais c'est pas très populaire de dire ça. Puis c'est... Maintenant, c'est pas ce qu'il y a de plus... Tu sais, pour mettre une conversation sur le côté relax, c'est pas exactement la meilleure solution. OK? Mais ici, ce que Jésus a dit, il dit, ayez pas peur de dire toute la vérité. Puis en passant, quand ça dit, là, Seigneur, donne-nous, remplis-nous de ton esprit, puis qu'on puisse prêcher la parole avec une pleine assurance, boldness. L'idée, c'est de prêcher toute la parole au complet, sans retenue. C'est ça l'idée. C'est de la prêcher toute. C'est l'idée de 100%. C'est d'y aller avec tout le conseil de Dieu, toute la vérité. C'est ça qu'il demandait. Il dit, Dieu, on ne veut pas être gêné pour ne pas parler de cette affaire-là. Ou pas. Non, donne-nous la pleine assurance de tout dire ce que tu veux qu'on dise. OK? Bon. Puis on peut le dire en plein jour. On peut le prêcher sur les toits. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui n'est pas honteuse. C'est la vérité, c'est la lumière. Mais n'est-ce pas que ça montre, même en tant qu'enfant de Dieu, la nature pécheresse qu'on a? On a honte de la vérité. On a honte du Dieu qui nous dit tout le temps des choses vraies, puis on a peur de le dire. Puis Jésus, il dit non, craignez pas. OK? Si vous êtes vaillant, que la parole de Dieu demeure en vous, puis que vous êtes dans un esprit de prière, dites-la la vérité, craignez pas. C'est pour ça qu'en verset 28, quand ça dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » On n'a pas à craindre ceux qui peuvent juste faire mal à notre corps. Parce que notre nature même, si on est ici et on est un enfant de Dieu, on est racheté, on est régénéré, on est immortel. OK? Qu'est-ce qu'il y a à craindre quelqu'un qui est comme ça? Dites-moi-le. Si on est racheté par le sang de Christ, si on est régénéré, si on est immortel, qu'est-ce qu'on a à craindre? Y a-t-il quelque chose qu'on a à craindre? Rien. On a une personne à craindre. Celui, justement, qui nous a racheté, qui nous a régénéré. C'est à lui qu'on doit la craindre, l'obéissance, la foi. Le reste, c'est juste du matériel, c'est juste du physique. On n'a pas à craindre ces choses-là. Et encore, je reviens à mes héros. Pourquoi c'est mes héros? Parce que ces gens-là, les héros de la foi d'Hébreux 11, ceux qu'on lit dans des biographies, dans des histoires, c'est justement ça. Pourquoi qu'on se rappelle d'eux autres? Face à de l'adversité et des affaires, ils n'avaient pas peur. Ils avaient une vision de leur Dieu qui était tellement grande, une vaillance spirituelle qui faisait qu'ils n'étaient pas arrêtés par ces choses. Wow! Pour ça qu'on les admire. Ce que je veux souligner ici, pour terminer avec ce point, c'est qu'on peut être rempli d'assurance face aux dangers, aux circonstances, aux menaces, parce qu'on est équipé avec la bonne vision spirituelle, mais aussi lorsqu'on a cette vaillance, cette vigilance spirituelle, Dieu nous donne la capacité. C'est une première chose d'avoir la vision, mais lorsqu'on veille et qu'on prie, Dieu va nous rendre capables à faire face à la musique. C'est pas juste d'avoir la vision, mais ça prend cette vigilance où est-ce que, OK, Dieu, je suis prêt à peu importe ce que tu m'envoies, parce qu'on n'est pas suffisant pour de ces choses. Puis la peur, si on la vainque une journée, elle peut nous rattraper. C'est l'idée d'être dans cette constante état de dépendance à Dieu. OK? Et ça m'amène au troisième trait de caractère qu'on considère ce soir, non seulement la vision spirituelle, la vaillance spirituelle, mais dans les versets 29 à 31, on a la valeur spirituelle. Regardez, à partir du verset 29, « Ne vend-t-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, ils n'entendent pas en attente à la volonté de votre Père. et même vos cheveux sont comptés. Troisième fois, ne craignez donc point. Vous valez beaucoup plus que deux passereaux. Ici, Jésus nous dit, oh, tu as de la valeur à mes yeux. Pourquoi? Parce qu'on a été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est ça qui nous donne de la valeur. Vous savez quoi? Les gens, là, j'ai le mot qui vient en anglais, des « crave ». Ils ont soif d'avoir de la valeur, de la significance, d'avoir de la signification. OK? Ça se dit pas les Français, les Français. Les enfants, significance. Hein?
Se faire un nom.
Mais d'avoir. Ben non, mais c'est de l'importance, tu sais. Puis on parlait de vedettes, de sport, savez-vous, allez voir. Benjamin Mano parlait de ça, c'était qui? C'était-tu Michael Phelps? Je me rappelle plus. En tout cas, quelqu'un était au sommet de la gloire, puis finalement, qui était vide, qui avait. C'est typique des gens qui ont, tu sais, ah, ils ont donc de la valeur, c'est le plus grand athlète de ce sport-là, puis ou une personne. Puis on va les voir, puis savez-vous quoi? Ils sont pas satisfaits, ils sont complètement vides, déprimés. Il y en a même que. Ah, il y en a un, c'était Sanders. Un gars, c'est quand même exceptionnel. Il a été champion de football, OK, c'est le Super Bowl. Il a gagné le Super Bowl, puis il a gagné le World Championship dans deux sports, donc football puis baseball. Hein? Oh. Oui, il a gagné dans les deux, ouais.
Non, son nom, c'est le premier nom, c'est
Bo. Bo Sanders? C'est un gros big black guy, là, tu sais, en tout cas. Puis, il est devenu chrétien, bon, mieux plus pentecôtiste, là, mais... Bon, je connais pas toute son histoire, mais... Il disait que le soir où il avait gagné le Super Bowl, puis je pense que je ne sais pas lequel qui a gagné en premier, là, mais tu sais, on peut dire c'est pas mal le sommet de ta carrière. Là. Il dit, je me sentais tellement seul, tellement vide, puis il était là en train de célébrer. Là. Puis c'est comme là, ça l'a frappé. C'est rien, ça. La Bible dit quoi? C'est une couronne corruptible. Tu sais ce que c'est? Donc, pourquoi on a de la valeur à cause de ce que Christ a fait dans notre vie? C'est son sang. C'est ça qui nous donne la valeur. La valeur ne vient pas de nous-mêmes, vient de ce que Christ a fait de nous. Et donc, c'est un peu ce que je vous dis, ça comble un des besoins les plus profonds de la nature humaine, quelque chose à laquelle on aspire tous, c'est d'avoir de la valeur. Et si on la cherche par les gens autour de nous, par le monde, on ne va jamais la trouver, mais Dieu la donne pleinement en Jésus-Christ. Savez-vous, qu'on médite un peu là-dessus. Savez-vous qu'on n'est pas un accident? C'est bon, là, je vais faire des commentaires, peut-être que ça va sonner calviniste. Bon, on n'est pas un accident dans le plan de Dieu. T'sais, on n'a pas surpris Dieu en étant sauvé. Okay? On n'est pas un second thought dans son plan. Il y a quelque chose qui est réassurant là-dedans. Je veux dire, de toute éternité, Dieu nous connaissait. On a une valeur spéciale aux yeux de Dieu. On fait partie de son plan rédempteur. C'est quelque chose, là. Et... Je veux juste qu'on s'arrête là-dessus pour voir. La Bible, nous, quand elle parle de nous, les enfants de Dieu, on est une pierre précieuse. Puis là, je vous disais, justement, ça vient d'un pierre. Choisi par Dieu, mais rejeté des hommes. Ça, c'est réconfortant quand, justement, ça va pas bien, puis tout ça. Hein, t'as peu, là. Dieu m'a choisi pour être une pierre dans son édifice spirituel éternel. Let that one sink in too. Je me rappelle plus pourquoi j'ai dit ça matin, là, mais en tout cas, je l'aurais dit. Cette œuvre qui est planifiée de toute éternité par Dieu lui-même, le sage architecte, on en fait partie. Ça nous donne... Il ne peut pas avoir de plus grande valeur que ça. Je veux dire, quelque chose d'important, là. Comparément à un Super Bowl à ça, qu'on ne se rappelle plus, il y a deux ans, c'est qui a gagné le Super Bowl. Ça ne veut rien dire. Mais l'œuvre que je viens de décrire là, le plan rédempteur de Dieu, ça veut tout dire. C'est la seule chose qui a de l'importance. Donc, étant ainsi chéri, aimé par Dieu lui-même, on n'a pas à craindre. Dieu, il dit, hein, il compare à des passereaux et des petits oiseaux communs, tu sais, un moineau, là. Puis Dieu, on vend ça pour deux sous, ça a une certaine valeur. Hey, on a tellement plus de valeur. Étant non seulement la création de Dieu, le chef de la création de Dieu, mais en plus racheté par le sang de Christ, voyez-vous, c'est ça la logique ici. Donc, on n'a pas à craindre. Dieu nous donne de la valeur. Savez-vous quoi? Nos ennemis, le monde, le diable, ne peuvent rien nous faire que Dieu ne permet pas ou qu'il décide que c'est ce qu'il veut nous envoyer. Savez-vous? Pensez à ça, là. Des fois, on pense à comme, oh, Dieu l'a échappé, puis là, j'ai ça, je suis pas gagné avec ça. Non, Dieu a décidé de nous envoyer ça. Dieu activement a dit, OK, je vais leur envoyer cette situation-là. On peut voir ça dans la société, mais aussi, en tant qu'envoyé, Dieu a décidé de m'envoyer ça. J'aime Jim Burr, comment il a dit ça, il dit, quoi? Dieu a décidé de m'envoyer un flat avant d'aller à l'église une journée qui pleut à boire debout? Oui. Si c'est ce qui t'est arrivé, c'est parce que Dieu a décidé c'est ça que t'avais besoin. C'est vrai. Tu sais, il veut dire, Dieu est-tu au contrôle ou il ne l'est pas? J'ai-tu aimé ça? Est-ce que c'est vraiment ce que j'aurais choisi pour ma sanctification? Non, mais c'est ce que j'avais besoin. Un flat en allant à l'église une journée qui pleut à boire debout. Dieu est Dieu, là. Puis, il est lui qui décide. Puis ça, c'est rien. Il faudra à Job de ce que Dieu peut décider de nous envoyer. Il aurait été content d'avoir le flat en allant à l'église avec la pluie qui tombe. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, il faut y faire confiance. Faire confiance à celui qui est seul sage, puis qui a bâti ça. OK, on fait partie de son édifice, c'est lui qui décide comment il l'a bâti. On peut être un petit mur dans un coin sombre, dans le fond de son temple céleste, c'est pas grave. On peut être dans une des deux colonnes, pas loin du temple. Dieu, il décide bien où est-ce qu'il veut nous mettre, puis comment il veut faire. Alors, moi, juste le fait d'être une pierre à quelque part, je suis bien content. OK? Il pourra bien mettre tout ce qu'il veut, puis faire comme il veut. C'est à lui qui décide. Il faut y faire confiance. Plus que jamais, il est temps de s'assurer que nous portons le caractère de Christ, le caractère apostolique. Les temps l'obligent, mes amis. Il faut s'attendre que la persécution augmente. Puis bon, hey, là, je vous dis, hein, on a donc de l'espoir cette semaine que tout va changer. Puis, hey, on dit 28 jours. Puis, non, justement, je suis un peu ironique, mais c'est pas ça notre espoir. Puis, tu sais, bon, si ça va mieux, ça va aller mieux. Puis sinon, pourquoi notre Dieu va quand même rester sur son trône, puis on va y faire confiance. Dieu sait ce dont on a besoin, nous, puis le reste de la société. Il faut y faire confiance, qu'il est au contrôle, qu'il est souverain. Puis c'est normal de rencontrer de l'opposition lorsqu'on veut proclamer l'Évangile, lorsqu'on veut être fidèle à celui qui, dont le royaume n'est pas de ce monde. C'est sûr qu'il y a un clash entre les deux royaumes. Il faut s'y attendre. Si on traitait le maître de la maison comme ça, est-ce qu'on devrait... Donc, ne craignons pas. Ne craignons pas parce qu'on a la bonne vision de notre Dieu. Parce que rempli de la parole et veillant dans la prière, on est prêt à tout ce que Dieu veut nous envoyer. Je veux dire, si on est tellement proche de Dieu, puis qu'on est dans cet état de vigilance spirituelle, je veux dire, Dieu peut bien nous envoyer ce qu'il veut, c'est correct. Les canaux de communication, les canaux de communion sont là. Et on peut se rassurer, se reposer dans le fait qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. On n'est pas échappé dans son plan. On est en plein milieu de son plan. Et Dieu sait ce qu'il fait. C'est beaucoup dans le temps, en ce moment, on entend les gens, des menaces. Menaces, on entend des menaces de mesures, des menaces pour la vie. Ah, un virus qui peut m'enlever la vie. Nous, on parlait ce matin, ah, menace de mon confort, je vais perdre mon confort. Mais qu'on se rappelle que la pire menace qui vole sur nous autres, qui plane sur nous, c'est d'oublier notre Dieu. C'est que notre Dieu devienne plus petit que ce qu'on est en train. C'est ça notre pire menace, c'est ça la pire chose. Donc, ce que je veux simplement lancer comme appel ce soir, puis on le chante, pas celui qui l'a écrit originalement, c'est à ça qu'il pensait, mais quand on soit donc ma vision. Moi, je pense que Dieu, quand je chante ce chant-là, je pense à Dieu qui est tellement grand qu'il remplit mon champ de vision. Tout ce que je vois, c'est Dieu. Sois donc ma vision. C'est-à-dire que tout ce que je vois, peu importe ce que je vis, je vois Dieu là-dedans. Je vois que c'est Dieu qui en est l'auteur, qui en est... celui qui a permis ces choses-là dans ma vie. On est dans des temps d'adversité, on est dans des temps certains. Mes amis, Dieu n'a jamais été aussi certain, Dieu n'a jamais été aussi sûr et au contrôle. Et donc, on devrait juste aller à lui. Mon appel, c'est on va prendre un temps pour prier, répondre, juste aller à Dieu, dire qu'il remplisse notre vision, qu'il nous aide à simplement veiller et prier dans ces temps-ci. Et Puis là, se rappeler comment, ah, c'est donc une grande sécurité d'avoir de la valeur aux yeux de celui qui règne sur l'univers. Merci Seigneur pour ce temps. Avec des enseignements que tu as donnés à tes disciples que tu aimais tant et tu les donnes à nous aussi parce que tu nous aimes tant. Merci qu'à trois reprises dans ce qu'on a vu ce soir, tu nous as dit de ne pas craindre. Et tu nous donnes des raisons puissantes de ne pas craindre. On n'a rien à craindre. Et Seigneur, tu le vois, on est sujet à la crainte. À la crainte des hommes au lieu de te craindre toi. Seigneur, on vient à toi, on prie que tu puisses sonder nos cœurs. On veut répondre à ta parole qu'on a entendue ce soir par la foi. Oui, sois notre vision, remplis notre champ de vision, afin que tu sois glorifié dans nos vies et que nos vies puissent te faire voir toi. C'est une chose que je vois dans le témoignage de cette femme dont je lis le livre, c'est que les gens voyaient Christ en elle. Elle avait une réputation, pas d'elle-même, mais d'être une servante de Jésus-Christ, d'être chrétienne, de t'appartenir. Seigneur, qu'on soit connu, pas pour ce qu'on fait, ce qu'on est, mais pour toi dans notre vie, Seigneur. On te le demande au nom de Jésus. Amen.